Je voudrais dire que je ne suis pas une spécialiste de la question, mais je suis passionnée par l'histoire des camps d'internement français. Et je me suis rendu compte que l'art était une façon très intéressante d'aborder cette question. Je tiens à préciser que je suis originaire des Pyrénées-Atlantiques. J'enseigne à Bordeaux. Et dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a un très grand camp qui est le camp de Gurs et qui est très méconnu. Et quand on va visiter le camp de Gurs, il ne reste plus rien sinon une immense forêt. Et pour aborder ce camp avec mes élèves, je me suis rendu compte que, et grâce à Claude Lahari, qui est l'historien du camp, qui a écrit une thèse sur le camp, et surtout un très beau livre, « L'art derrière les barbelés », les reproductions sont excellentes, on peut aborder l'histoire de ce camp grâce aux dessins qui ont été faits par les internés à Gurs durant la Seconde Guerre mondiale. Mais en introduction, je voudrais vous présenter un peintre dont on a déjà parlé, qui est Félix Nussbaum. Ce peintre, donc le MAJ, le Musée d'art et d'histoire du judaïsme, lui a consacré une magnifique exposition cet hiver. Le catalogue est très intéressant, très riche. Et Philippe Dagen fait un article pour montrer l'importance de ce peintre qu'on a longtemps méconnu en France. Il s'agit là d'un autoportrait. Félix Nussbaum est un spécialiste des autoportraits, mais un autoportrait dans le camp de Saint-Cyprien, où il a été enfermé en tant que ressortissant étranger en mai 1940. Donc on le voit là au premier plan. C'est l'image d'un homme extrêmement digne, et c'est ce qui est frappant. Il est amaigri, sa chemise est rapiécée, mais ce qui frappe, c'est la dignité donc de ce regard, la force de ce regard qui nous interpelle, et je pense qu'il nous demande de voir la réalité du camp. La réalité du camp, on peut la voir à l'arrière-plan. Ce camp est symbolisé par les fils barbelés. On voit des baraques en bois et ses co-détenus. Un qui est attablé dans une solitude totale et deux autres qui visiblement n'ont pas eu le temps d'aller aux latrines. Et tout cela donc pose le problème de la vie dans le camp. Ce tableau a été fait à la sortie du camp en 1940. Puisque de 40 à 44, avant la date de sa déportation, Félix Nussbaum a fait des œuvres capitales, madame en a montré en partie, sur la persécution des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Il est vraiment emblématique de tout interné en 1940 en France. Alors, évidemment, il n'a pas été fait dans le camp, hein, puisque mon thème s'intitule « L'art dans les camps d'internement français », mais je tenais à le montrer malgré tout. Donc, nous sommes en 1940. Félix Nussbaum est interné sous la Troisième République. Là, je pense que je peux passer relativement rapidement, mais les camps sont nés sous la Troisième République en vertu d'un décret d'Aladier, du gouvernement d'Aladier de novembre 1938, donnant la possibilité d'interner les étrangers indésirables. À partir de septembre 1939, en mai 1940, donc septembre 1939, c'est l'entrée en guerre de la France, mai 1940, c'est l'attaque allemande, ces camps vont être utilisés pour enfermer, comme Félix Nussbaum, les ressortissants des nations ennemies de la France. Mais tout cela, comme le souligne Denis Péchanski, se fait dans une logique d'exception. Nous sommes sous la Troisième République. Mais très vite, Vichy va utiliser ces camps à son tour, dans une toute autre logique, une logique d'exclusion. Là, il s'agit d'enfermer les éléments impurs de la société française qui seraient responsables de notre défaite, les éléments de l'anti-France, les Juifs, les communistes, les étrangers. Et en outre, un décret d'octobre 1940 donne au préfet la possibilité d'interner tout juif étranger sous prétexte qu'il est juif et étranger. Les Allemands s'intéressent peu à ces camps dans un premier temps. Il y a très peu d'internés dans la zone nord. Ce sont les camps du sud qui en concentrent le plus. Mais tout va changer à partir de 1941 avec les premières rafles antisémites à Paris. On va utiliser donc ces camps pour y interner les juifs. Et surtout, à partir de 1942, le camp va devenir la pièce essentielle dans la stratégie allemande, dans une logique là qui change, hein, bien au-delà de la logique d'exclusion, une logique de persécution. Le camp devient l'antichambre de la mort. Dans ces camps sont enfermées des personnes d'origine diverse, majoritairement des juifs, et parmi ces internés, on compte de nombreux artistes. On peut trouver le recensement de ces artistes dans un livre important sur la question « L'art des indésirables » qui a été fait par Pina Rosenberg, qui à la fin fait des notices biographiques de beaucoup d'artistes internés en France. Et puis la liste est encore plus complète dans le catalogue d'une exposition qui a eu lieu en 2005 à Paris, Montparnasse déporté, qui permet donc d'avoir des notices biographiques très précises. Alors ces artistes ont créé dans les camps, donc je poserai comme problématique que montrent ces œuvres de l'univers concentrationnaire en France durant la Seconde Guerre mondiale. Ces œuvres sont-elles le reflet de la réalité et peut-on parler d'un art des camps d'internement? Dans une première partie, je présenterai les artistes des camps. La seconde partie sera consacrée au pourquoi de la création et les conditions de la création. Et enfin, dans une troisième partie, les thèmes récurrents de ces œuvres artistiques. Je précise bien que je n'ai traité que l'art pictural. Donc, tout d'abord, les artistes, dans une première partie, des camps. On peut, par souci de commodité, les classer en deux catégories. Il y a tout d'abord les artistes qui ont été arrêtés en septembre 1939 et ou en mai 1940. Ils ont été internés dans les camps de la zone sud. Pour la plupart, ce sont des réfugiés qui ont fui les persécutions politiques raciales, et parfois les deux, dont ils étaient victimes en Allemagne en 1934, à partir de 1933, en Autriche à partir de 1938. Et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'entre eux vivent à Paris, mais Paris est une ville chère et certains disent dans leurs témoignages qu'ils ont éprouvé le besoin d'aller dans le sud. Le symbole de cette colonie allemande, pour reprendre une expression de Jean-Michel Palmier qui a écrit une somme sur ce thème-là, Weimar en exil, c'est Sanary-sur-Mer, un village de pêcheurs situé près de Toulon, hein, qui devient, comme le dit le philosophe Ludwig Marcuse, la capitale de la culture allemande. On y retrouve notamment, alors je ne suis pas germaniste, je vais mal prononcer le nom, l'écrivain Leon Feuchtwanger, qui a écrit un très beau témoignage, Le diable en France, sur son expérience au camp des Milles, son internement au camp des Milles. Donc ils sont arrêtés soit à Paris, soit dans le sud, en septembre 1939, libérés assez rapidement, internés de nouveau en mai 1940, et c'est ainsi que des peintres célèbres comme Max Ernst, Hans Bellmer, Ferdinand Springer, Robert Lipneck, pour citer les plus célèbres, se retrouvent aux Milles. Il y en a d'autres qui se retrouvent, peut-être un petit peu moins connus, comme Joseph Sousse, au Vernet. Alors il faut préciser qu'il s'agit d'une élite intellectuelle. Beaucoup appartiennent à l'avant-garde. On les enferme alors que ce sont des militants anti-nazis. On les traite en ennemis potentiels de la France, dans la crainte, la fameuse crainte de la cinquième colonne. Mais Je tiens quand même à préciser par rapport, quand on lit des témoignages, certes, au Mille, on vit difficilement, les conditions de vie sont difficiles, mais ça n'a rien à voir avec un internement qui dure pendant des mois au camp de Gurs. Et je pense que créer au Mille est plus facile que créer dans d'autres camps. Et beaucoup d'ailleurs, soit avec l'aide de grands intellectuels français, soit avec l'aide de Varianne Frey, parviennent à sortir du camp. Donc ce sont des artistes qui ne vont pas connaître la période où vivre dans un camp est de plus en plus angoissant, essentiellement à partir de 1942. Donc voilà pour le premier groupe. Le second groupe que je distinguerai, ce sont les artistes internés à partir de 1941, juifs pour la plupart, qui sont originaires d'Europe centrale et orientale, qui sont venus en France en deux vagues principales, avant la Première Guerre mondiale, puis après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils étaient attirés par le rayonnement culturel de Paris. Alors, parmi eux, on trouve des noms, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, mais on les retrouvera dans les images, Jacques Gopko, Adolphe Feder, un Allemand qui est un petit peu plus connu, qui est Otto Frönlich, un Roumain, Kolos Vary. Ils vivent dans le quartier Montparnasse, où ils fréquentent donc les fameux cafés, la Coupole, le Dôme, etc. Et ils forment ce qu'un critique a appelé l'école de Paris. Et cette école de Paris, il a forgé cette expression non pas pour désigner une véritable école, c'est pas une véritable école, ni un véritable mouvement, mais pour montrer qu'il s'agit d'un fait historique. Et c'est sa façon, en les désignant ainsi, de les réhabiliter dans un contexte de xénophobie grandissante en France. Donc, eux, ces artistes, sont pour la plupart, à de rares exceptions près, internés dans les camps de la zone nord, ceux du Loiret, Drancy et Compiègne. Donc voilà pour la présentation des artistes. Alors, dans ces camps, comment expliquer la richesse et la variété des créations? Comment a-t-elle été possible et pourquoi a-t-on créé? Un ashram a été enfermée au camp de Gurs. C'était une femme juive allemande, membre du SPD. Donc enfermée au camp de Gurs de juin 40 à octobre 1941, elle a écrit un témoignage particulièrement dense sur la vie dans ce camp. D'ailleurs, Claude Lahry s'en est beaucoup servi, la cite énormément dans sa thèse sur Gurs, dit une chose qui est très belle sur le pourquoi de la création. Les ténèbres, le froid et la faim faisaient surgir de tous côtés, comme une protestation puissante, l'activité artistique. L'être humain, souffrant, tendait ses forces à l'extrême pour affirmer son existence. Donc, en effet, la vie dans le camp est marquée par l'ennui, la perte de dignité, on le voit dans ce tableau, la déshumanisation. On y travaille à de rares exceptions, donc dessiner, c'est tromper l'ennui. Et dans ce domaine d'aliénation mentale et de vide supposé, la création artistique devient une forme de résistance spirituelle, selon le concept qui a été forgé par Myriam Novitch. Alors Myriam Novitch a été conservatrice du musée de la Maison des combattants du ghetto en Israël, où on peut trouver énormément de dessins qui ont été faits dans les camps, tant en France que dans le reste de l'Europe. Un artiste des Mille, Lippmann Wolf, affirme également « Seule cette occupation me permettait de garder ma dignité et ma raison ». Donc ces dessins sont un lien avec le passé, le passé d'hommes qui étaient dignes, qui pouvaient créer. La créativité est désormais le vestige d'un autre monde, celui d'avant. Désormais, il faut le préciser, toute création est interdite aux Juifs. Leurs tableaux sont enlevés des musées, ils n'ont pas le droit de participer aux expositions. Donc il n'y a plus de vie culturelle juive. Mais ces dessins sont aussi un pont vers le futur, puisque créer, c'est pouvoir témoigner. Ces dessins sont des preuves pour les futures générations. Diana Fumado, qui est une spécialiste de la question, qui a travaillé sur les dessins faits dans les camps nazis par des Français, cite Goethe qui dit « Ce que je n'ai pas dessiné, je ne l'ai pas vu ». Donc, importance hein, du témoignage que constitue le dessin. En outre, ces dessins, les artistes créent, outre donc la résistance spirituelle, ils créent pour des raisons, purement matérielles. Ils peuvent échanger leurs dessins contre un supplément de nourriture, de tabac, d'alcool, qui se procure généralement au marché noir. Ils parviennent même à vendre leurs dessins, soit alors parfois à des personnels du camp, qui sont parfois très contents d'avoir des peintres célèbres dans leur camp et qui leur passent des commandes. Hans Bellmer, par exemple, qui est un artiste surréaliste, faisait des portraits de facture très classiques pour le personnel du camp. Et le capitaine Poina, qui était à la tête de ce camp à un moment donné, lui a demandé de faire le portrait de sa fille. Les associations caritatives, qui sont très nombreuses dans les camps, peuvent acheter des dessins. Là, c'est important aussi. J'ai l'exemple d'Elsbeth Kasser, membre du Secours Suisse à Gurs, qui en achète quelques-uns dans la mesure de ses moyens aux internés. Elle est tellement aimée par les internés, ils l'ont surnommée l'ange de Gurs, qu'ils lui en vendent, mais ils lui en offrent. Et c'est ainsi qu'elle a pu constituer une magnifique collection qui a longtemps été conservée au musée de Viborg et que l'on peut voir aujourd'hui à Zurich, aux archives de l'histoire contemporaine. Enfin, ils les vendent aussi à leurs co-détenus, qui leur passent régulièrement des commandes. Par exemple, Isaac Schoenberg, qui est au camp de Thiviers, qui est un jeune artiste, se plaint d'avoir trop de commandes. Et en plus, il se plaint des conditions. Il ne peut pas honorer toutes ses commandes par manque de temps, mais aussi de lumière. Parce que peindre dans des camps, ce n'est pas idéal. Les baraques sont souvent très mal éclairées. Et les internés vivent dans la plus grande promiscuité. Par exemple, Max Ernst se plaint énormément de la promiscuité, fait tout pour s'isoler, notamment avec Ernst Bellmer. Ils ont transformé un des fours, puisque l'Émile était une ancienne briqueterie, en atelier de peinture. Donc, où se procure-t-il le matériel? Parfois, les... Oh là là. Donc, les peintres... il faut que je passe très très vite. Les peintres sont venus au camp avec leur matériel. Ils sont en contact avec des gens de l'extérieur qui leur en apportent. Les organisations caritatives essaient de leur fournir du matériel. Et les artistes récupèrent tous les matériaux utilisables. Et on y reviendra sans doute avec Claude Ungar, parce que je n'ai pas traité de la question des objets fabriqués dans les camps. Donc on y reviendra peut-être, vu le temps qui m'est imparti, durant le débat. Ce qu'il faut quand même préciser avant d'aborder en 6 minutes la troisième partie, c'est que contrairement aux camps concentrationnaires nazis, c'est une activité qui n'est pas interdite, à condition évidemment de ne pas faire de dessins trop politiques. Et ça me semble fondamental. Et Claude Larry dit qu'au contraire, c'est une activité qui est encouragée dans la mesure où ça peut servir de dérivatif et empêcher éventuellement les hommes de se révolter. Donc la troisième partie, que représentent ces dessins? Donc je vais passer très très vite parce que je voudrais terminer sur un document un petit peu original. Les thèmes principaux. On trouve énormément de portraits. Alors, les portraits... Là, je commence par un portrait. Il faudrait que je fasse... je ne vais pas avoir trop le temps. Il s'agit de Kolochvary, qui a fait le portrait d'une petite fille. Je voulais vous donner cette citation. « J'ai dessiné des portraits, dit Kolochvary, interné à Gurs, comblant avec mon crayon les joues creuses de mes modèles décharnés en clair-obscur, sous l'éclairage d'une faible lampe. Ils me demandaient de faire leur photo pour une tartine beurrée ou un kilo de haricots afin qu'ils puissent l'envoyer à leur femme. Je n'ai pas pu faire autrement que de tricher en les représentant gros, gras, souriants et bien portants, évidemment pour rassurer la famille. Au contraire, un autre peintre, toujours de Gurs, Julius Cohn-Turner, lui affirme qu'il se refuse à déformer la réalité. Et on le voit très bien avec l'exemple de ce portrait, puisque c'est un homme extrêmement amaigri. Alors, je ne ferai pas les commentaires des peintures suivantes, sinon je n'arriverai pas au bout. Au-delà des portraits, le deuxième thème le plus fréquemment représenté, c'est le cadre de vie. Là, il s'agit de Compiègne, de vues réalisées par Gobco, le Mirador, les fils barbelés qui symbolisent le camp. Donc, je vais passer assez vite. Je reviens à Gurs avec deux peintres qui ont énormément illustré la vie dans le camp. Il s'agit de Kurt Löwe et Karl Bodeck. Donc, les baraques du camp de Gurs, avec les Pyrénées à l'arrière-plan, l'intérieur des baraques, avec un confort minimal, pas la possibilité de ranger ses affaires, etc. Et très souvent, l'image qu'il faudrait montrer avant tout, c'est la promiscuité à l'intérieur des baraques. Enfin, je voudrais arriver au thème suivant. Alors, la vie quotidienne, qui est marquée par la faim. Beaucoup de dessins qui représentent donc ce thème-là. Là, il s'agit du partage donc d'une miche de pain. Et c'est une séance pratiquement solennelle parce que ça peut donner lieu à des disputes tellement le pain est précieux. La autre image de Löwe et Bodeck, on voit qu'un homme est obligé de faire les poubelles, tel un chien qui est représenté à l'arrière-plan pour se procurer de quoi manger. Autre thème évidemment à aborder, c'est la maladie et la mort. Là, il s'agit d'une représentation de la morgue, d'une enfant, mais sans aucun voyeurisme, avec sa poupée. Et on voit à côté qu'elle est une personne âgée qu'on reconnaît à sa main. Donc, enfin, avant d'aborder les dessins politiques sur lesquels je voulais un petit peu insister, les déportations, les représentations des déportations sont extrêmement rares. Celles-là sont faites par Turner, sont particulièrement émouvantes, là aussi sans aucun voyeurisme. Mais bon, je dois passer. Personnes âgées, les enfants qui vont être conduits dans le camion que vous voyez à l'arrière-plan. Nous sommes à Gurs, camion qui sera qui ira à destination d'Oloron, et les déportés prendront le train à Oloron pour Drancy. Les dessins politiques, c'était le dernier thème que je voulais aborder. Je vais très très vite. Là, parce que on peut vraiment l'utiliser comme parcours de peintre, c'est Boris Talisky, d'origine juive, mais qui a été arrêté en tant que résistant, qui là, ça se passe dans le camp de Saint-Sulpice-la-Pointe, dans le Tarn, et il illustre des vers d'Aragon, donc dans sa baraque, donc dans le style réaliste, socialiste. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur le style de la peinture, sur les vers d'Aragon, comment ces vers lui sont parvenus, mais je ne peux pas. Là, il s'agit des peintures murales réalisées au Mille, une œuvre collective dont on ne connaît pas bien donc les différents auteurs. Une parodie, en fait, on retrouve les thèmes de le retour à la terre de la Révolution nationale de Pétain. Et je veux quand même vous montrer. On peut revenir, s'il vous plaît. Et j'irai très, très vite. Non, pas en dehors. Sortir de, excusez-moi, de un document qui est pour moi exceptionnel et très facile à utiliser avec les élèves, Mickey Agurs. Donc il s'agit d'un peintre juif allemand, Horst Rosenthal. Mickey Agurs, cette bande dessinée est conservée au Mémorial de la Shoah. Il y a deux autres bandes dessinées de Horst Rosenthal qui sont dans la collection Elsbeth Kasser. Alors, on peut là, il y a deux thèmes que l'on peut traiter. Les caractères essentiel de Vichy, c'est-à-dire un régime antisémite, xénophobe et anticommuniste. Et puis également, on peut traiter tous les thèmes que l'on vient de voir, c'est-à-dire la vie dans un camp d'internement français. Donc c'est traité sur forme ironique, mais avec beaucoup d'efficacité. Donc d'entrée de jeu, publié sans l'autorisation de Walt Disney. Je ne sais pas si on peut, madame, grossir dans la partie droite. Donc, je ne sais pas si vous arrivez. Et juste à lire, c'était un jour, bon, ça démarre très fort, de l'an 2 de la Révolution nationale. Donc, Mickey se promène. Donc, un gendarme l'interpelle, un gendarme basco-béarnais, lui demande s'il a des papiers. Il n'a pas de papiers, donc, direction GURS, hein, moi pas étranger, moi international. Ah, vous êtes étranger, votre compte est bon, allez au poste. Et voilà que j'arrivais à GURS. Donc, il y a une petite photographie qui a été collée. Alors, Mickey joue les naïfs. Il se demande donc ce que sont ces niches de chiens alignées. Hein. Donc, je passe. Là, il est soumis à un interrogatoire. Qui est son père? Walt Disney. Walt Disney était antisémite. Une mère, il n'en a pas. Donc, on lui répond que c'est pas possible. On lui demande s'il est juif. On en conclut donc qu'il est. Alors, il dit qu'il est international. Alors, comme il est international, il va être interné à GURS, comme les brigades internationales, hein, puisque les camps, je suis passée un petit peu plus vite sur. Ont d'abord été internés pour les réfugiés espagnols et les brigades internationales. Après, Mickey découvre ce qu'est une baraque à GURS avec l'arrière-plan des Pyrénées. Donc, il est très étonné sur l'inconfort. La ration de pain observée par Mickey, on retrouve le thème de la faim, hein, pour bien souligner à quel point les internés sont sous-alimentés. Un homme qui essaie de se débrouiller à fabriquer, il a récupéré des épluchures de toutes sortes, donc il essaie de se faire à manger. Mickey veut aller voir les poules, donc là c'est une allusion, le camp des femmes et le camp des hommes est séparé. Et pour passer d'un îlot à l'autre, il y a 13 îlots principaux à GURS, il faut une autorisation. Alors soit on arrive à l'obtenir, soit on arrive par des moyens illégaux. Là, encore une allusion à la Révolution nationale, il demande à un co-détenu « Alors vieux, tu es retourné à la terre ?» Et l'homme répond qu'il n'avait jamais quitté la terre. Il se rend compte que certaines personnes sont chargées de lutter contre le marché noir, qui est fort actif à GURS. Là, il est très étonné qu'un homme reçoive autant de courriers. En fait, c'est quelqu'un qui censure le courrier des détenus. Et puis Mickey rêve, et on aurait aimé rêver de cela pour Horst Rosenthal. Il voudrait retrouver le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et bien entendu, ce pays-là, ce n'est plus la France, hélas, mais ce sont les États-Unis. Et Horst Rosenthal sera déporté et ne retrouvera jamais donc la liberté. Donc ce que je voudrais dire juste en conclusion, c'est que selon moi, ces dessins constituent des témoignages exceptionnels. Laurent Gervereau, qui est un spécialiste de l'analyse des images, qui a écrit un livre « Lire, comprendre et analyser les images », dit que toute image est une transposition de la réalité. Mais là, il s'agit d'un art figuratif très proche de la réalité. Chaque artiste conserve son style particulier. Mais là, il aurait fallu s'attarder sur certains des artistes. Hein. Chaque artiste propose des fragments d'œuvres singulières. Et quand Elsbeth Kasser assistait au départ pour la déportation de détenus de GURS, on lui disait « sœur Suisse, il faudra dire ». Et elle dit que les expositions qu'elle a pu organiser avec sa collection à partir des années 80, ces expositions, elle est très fière de les avoir organisées parce que c'est une façon de dire ce qu'elle a vu durant la Seconde Guerre mondiale en France. Et de la même façon, Félix Nussbaum a dit, avant de partir en déportation, « montrer mes tableaux ». Donc je pense que l'art est fait pour ça.